Donc moi je vais évoquer le travail qui est effectué à Betanaya. Betanaya, tout le monde connaît?
Non.
Non. Betanaya, c'est la maison du frère. Ce qui signifie la maison du frère. J'avais connaissance de la création de Betanaya et j'avais été surpris qu'un tel lieu d'accueil fonctionne au sein de la maison du diocèse. C'est en mai 2023 que j'ai croisé sur un sentier de randonnée Jean-Paul, qui recherchait une personne pour assurer un temps d'accueil chaque semaine à Betanaya. Cette rencontre était tellement improbable que j'y ai vu un appel. C'est vrai que je l'ai croisé, lui dans un sens, moi dans l'autre. Disons, c'était. Voilà. Et je n'avais pas de raison de refuser. Ce service me paraissait tout à fait important et une demi-journée par semaine, c'est jouable. J'ai demandé à en savoir un peu plus avant de donner ma réponse. J'ai lu les textes qui définissaient ce qu'est Betanaya. Et nous en avons discuté avec Marie-Jeanne qui m'a encouragé. Sans vouloir en rajouter, je pense que le fait d'être en fraternité depuis quelques mois a pesé dans ma décision. Oui, j'étais en fraternité depuis 2022. Alors la mission du lieu, elle est définie dans un texte qui a été promulgué à la création en 2019. Un lieu d'accueil de proximité auprès des plus pauvres et blessés de la vie, où se vit concrètement la fraternité, situé au sein de la maison du diocèse, j'avais la réponse à ma question, il se veut le signe que le service du frère, solidarité, est l'affaire de tous dans l'Église, l'option préférentielle des pauvres est au cœur de la vie chrétienne. Ça, c'est la théorie. Un lieu où se vit la fraternité dans le respect de ce que sont et de ce que vivent les accueillis, avec des propositions spirituelles. En fait, c'est au sein de la maison du diocèse parce que ça faisait partie d'un pôle plus large. Et puis, les restructurations étaient telles qu'à un moment donné, il y a eu la création des pôles pastoraux et que seul l'accueil des publics en précarité, fragilisés, a gardé le nom de Betanaya. Je pense que c'est le hasard, mais je pense que c'est peut-être pas tout à fait le hasard. Concrètement, je me suis formé pour revenir à la mission auprès d'Anne, qui était bénévole depuis 3 ans, et c'est elle qui m'a mis au parfum, très concrètement, sur l'accueil. Chaque mercredi de 14 à 17 heures, en binôme avec elle et avec l'appui de Maryse qui anime un atelier bricolage, cela veut dire ouverture du local, un local très agréable, préparation d'une première collation, suivie de jeux ou d'activités diverses, jeux de société, auxquels nous sommes amenés à participer si nous sommes disponibles. Puis une nouvelle collation à 16h30, avant de ranger et de les libérer vers 17h. En fait, vous allez dire 2 collations en 3 heures. Mais ce sont des gens qui ont faim, qui sont souvent. Et quand il y a des restes, ils partent, certains, avec les viennoiseries. Difficile d'isoler une rencontre. Simplement, je pense à Armen, originaire du Moyen-Orient, avec une ou plusieurs pathologies assez sérieuses, sans aucune ressource et qui n'a pas de toit. Et sous le coup d'une OQTF. Cet hiver, il allait squatter en dessous, auprès des urgences à l'hôpital, quand on ne le rejetait pas. Nous n'avons aucun moyen pour l'aider, sinon de l'orienter vers d'autres organismes qui sont souvent confrontés aux mêmes difficultés, absence de logement, insolvabilité, statut de réfugié. Et quand je ferme la porte après 17 heures, qu'il pleuve ou qu'il gèle, et qu'ils sont 4 ou 5 qui vont dormir dehors sous une tente, sur un carton, sous un escalier, comment partir tranquille dans mon logement chauffé? Je pense aussi à Jean-Marc, qui vient assez régulièrement, qui est seul, avec quelques ressources, qui lui a un logement, et qui pendant des mois venait s'asseoir à la même place, sans parler, ni participer à quelque activité que ce soit, Puis petit à petit, s'est mis à jouer, à échanger. Il fallait être patient. Je n'ai pas grand-chose à leur donner, sinon mon temps, et que ce temps soit vraiment donné à les écouter, à leur permettre d'exprimer leur vie, leur inquiétude, voire leurs angoisses, à les prendre en considération. Il m'arrive de temps en temps de refuser de jouer pour être disponible à ceux qui veulent parler, ou pour rendre possible aussi des échanges entre eux, voire pour tempérer des moments un peu plus chauds entre eux, car cette micro-société qui se reforme tous les deux jours, oui, j'ai oublié d'ajouter que cet accueil fonctionne le lundi, le mercredi et le vendredi, avec trois binômes différents. Et donc, oui, c'est une micro-société qui se reforme tous les deux jours et qui ne s'abaigne pas toujours dans la gentillesse. Alors, je ne sais pas si ça a changé des choses dans mon regard. Je suis toujours surpris, pour ne pas dire émerveillé chez certains, par leur sérénité, au moins apparente, leur sourire, la pêche malgré tout, la ténacité pour arriver à un résultat. Admiratif aussi de leur manière d'être solidaire entre eux, que ce soit pour l'hébergement, partage du logement, partage des tuyaux, pour les achats, pour la nourriture. Ils ont peu, mais ils partagent. Je pense que depuis que je les côtoie et les accompagne, je suis devenu plus attentif dans mon entourage aux personnes qui vivent la solitude, connaissent des problèmes de santé et les souffrances qui en découlent. Mauvaise image de soi, rejet. En prenant le temps de les écouter sans avoir peur de leur adresser la parole, mais j'ai encore du chemin à faire dans ce domaine. Question plus difficile, est-ce que ça a changé ma vie spirituelle ? Il y a deux textes dans l'Évangile qui me parlent et me guident depuis longtemps. C'est le texte des Béatitudes et le récit du lavement des pieds. La présence chaque semaine aux côtés de Armène, Bruno, Émilienne, et je rajouterai d'autres prénoms, est un temps à leur service. C'est là que le Christ m'attend. En ce sens, ce compagnonnage nourrit ma foi et m'invite à rester en prise avec le Christ qui est dans chacun d'entre eux, qui m'invite à partager, à sourire, quand je n'en ai pas forcément envie, à respecter leur silence, à répondre à leurs demandes ou leurs propositions. Les quelques moments de célébration que j'ai pu vivre avec eux sont émouvants, tant ils sont sereins et pleins de confiance, voire d'espérance. Oui, les temps spirituels, comme il est dit, il y en a au moment des fêtes, essentiellement. Alors, si j'ai reçu des révélations, non, je n'ai pas eu de révélations. Les deux textes d'évangile évoqués me servent de boussole et je me dis que j'ai encore du chemin à faire pour mettre en acte ces mots de justice, de paix, de service, au service des hommes et des femmes les plus en difficulté. J'emprunte à un ancien serviteur de l'État ces lignes lues il y a quelques semaines. Pour répondre aux défis communs de l'humanité, le climat, les guerres, la pauvreté, nous devons nous appuyer sur la force de la faiblesse, l'acceptation de nos limites. Et comme nous sommes encore dans le temps de Pâques, je vous renvoie à un édito de Francis Boyer que certains ont peut-être Frédéric, que certains ont peut-être lu dans La Croix Hebdo, et si c'était cela, Pâques, l'humble et maternel souci des besoins d'autrui, pas plus que tu nous as quittés, nous ne quitterons les autres. Pas davantage que nous n'oublierons pas le plus petit, le plus faible d'entre nous, pas davantage tu ne nous auras quittés, toute présence est désormais la tienne. Quelle question ça me pose ? Sans doute qu'une gestion un peu plus structurée, plus professionnelle, avec un projet annuel anticipé, puis évalué, permettrait que le service évolue et s'enrichisse. Puis une question, pourquoi faut-il que l'Église crée des lieux spécifiques pour ces personnes ? Je vous remercie.
Merci. enregistrer.